88.4 et comme chaque semaine, une fenêtre pour aller passer une heure en Palestine. Les extrêmes droites se fascisantes se soutiennent. Nous leur avons barré la route, sans, on l'espère définitivement, mais ils sont au pouvoir et commettent un génocide en Palestine occupée. Un petit souvenir de ce qui se diffusait sur les radios libres à l'époque. On écoute le chant des partisans. À nos anciens qui ont lutté et combattu les armes à la main pour se débarrasser de l'ennemi nazi, nous l'oublions jamais. Un certain parti a été fondé par un ancien Waffen-SS. Et on passe tout de suite à l'agenda avec dès samedi deux événements tout proches dans notre région. D'abord à Martigues, après Marseille en 2011 et 2018. Martigues aura l'honneur, entre le 20 et le 23 juillet, d'accueillir la flottille de la liberté, un symbole puissant de solidarité et d'espoir pour le peuple palestinien. Le samedi 20, vers 13h, arrivera dans le port de Martigues le Handala. Handala, vous savez, c'est ce petit bonhomme du caricaturiste Naji Alali, qui a toujours le dos tourné et qui ne se retournera que le jour où la Palestine sera libérée. Donc le bateau doit faire partie d'une flottille, on en parlera en fin d'émission, avec Claude Léostic, qui fait partie de la coordination internationale pour la flottille, et avec Thierry Louchon, qui à Martigues organise la réception du Handala. Le 20, donc, c'est l'accueil à partir de 13h. Le bateau arrivera pour rejoindre le quai où sera le bateau. On vous conseille d'arriver un petit peu plus tôt. Vous allez vers Martigues par l'autoroute, vous prenez la deuxième sortie, la première étant Martigues-Sandre, vous prenez la seconde, Martigues-Lavera, et à la suite de cette sortie, vous aurez des flèches qui vous indiqueront comment arriver au bout de la jetée où se trouve au bout de la rue Chappe, derrière la criée. Voilà, le soir, à partir de 18h, une soirée est organisée au cinéma La Cascade sur le thème de la mer à Gaza, avec notamment la projection du film de Sarah Katz, militante de l'International Solidarity Movement, qui a passé plus de 2 ans dans la bande de Gaza. Et puis, il y aura aussi la projection de plusieurs vidéos du réalisateur Yad Alastal. toujours le samedi à 18h30, mais cette fois à Aix-en-Provence, place de la Rotonde, manifestation de soutien à la Palestine organisée par le comité des étudiants pour la Palestine de la faculté de l'université Aix-Marseille et le groupement BDS Provence. On fait tout de suite un autre petit morceau de musique pour ne pas trop parler. Et bien sûr, comme chaque semaine, dimanche 21, à partir de 16h, rassemblement à la porte d'Aix pour ensuite une manifestation, toujours de soutien à la résistance du peuple palestinien. Enfin, il fait 33 degrés aujourd'hui à Marseille. Vous avez chaud, hein ? Le soir et le matin, une douche tiède, ça fait du bien. Un repas léger. Vous allez à la plage, à la maison, vous fermez les volets. Vous mettez la clim ou le ventilateur. Puis, vous ouvrez le frigo, prenez de l'eau fraîche. Il y a peut-être une glace au congélateur que les enfants réclament. Cet après-midi, il fait 34 degrés à Gaza. Température ressentie, 40 degrés. Et ils n'ont ni eau, ni électricité. Pas même un abri. Sous la tente à plastique, lorsqu'ils en ont une, il y fait 50 degrés. Les femmes enceintes sont épuisées. Celles qui viennent d'accoucher n'ont plus ni lait ni eau potable pour les nourrissons. Les blessés sont quasiment sans soins. Les hôpitaux ne fonctionnent pas ou presque plus. Pas de médicaments, mais des épidémies de gale, de poux, d'hépatite, de dépression. Cela fait plus de 10 mois qu'ils marchent du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nord puis au centre, vers le sud, dans les rues, où pourrissent les cadavres dévorés par les chiens et chats errants, sous les bombes, tirés par des quadricoptères, made in Israël ou made in USA. La terreur et l'épuisement terrassent petits et grands aux organismes affaiblis par la famine et l'absence de médicaments. L'Occident, démocrate et humain, continue à livrer des armes, bombes, munitions pour faciliter le génocide et refuse de répondre aux demandes de la Cour internationale de justice. Le Lancet, magazine britannique de notoriété mondiale, estime à plus de 185 000 le nombre de victimes directes et indirectes du génocide conduit par le gouvernement et l'armée israélienne. Pour Macron, ce n'est pas le moment opportun pour reconnaître l'État de Palestine. Le nouveau Front populaire inscrit la reconnaissance de l'État de Palestine dans son programme et oublie tout le reste. Le plus important aussi, ce sont les sanctions. Mais on attend au moins la reconnaissance. Et puis, quelques dernières informations, en ayant trié ce qui est le plus horrible, parce que l'horreur tue l'horreur, nous essayons de ne pas trop vous accabler. En 10 jours, ce sont 6 écoles de l'UNRWA qui ont été bombardées. Mais chut, il ne faut pas parler. Nouvelle attaque de la zone de sécurité de Al-Mawasi, dans l'indifférence totale de nos belles âmes des démocraties occidentales. Les scènes les plus terrifiantes depuis le début des massacres. 90 morts, dont de nombreux enfants et environ 300 blessés. Les génocidaires prétendent avoir voulu tuer Mohamed Al-Deif, responsable militaire du Hamas. Dans les hôpitaux, par exemple l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes, les blessés sont soignés à même le sol, opérés sans anesthésie. Médecins sans frontières indiquent que les hôpitaux manquent même des produits de première nécessité et de plus en plus de vies sont perdues à chaque seconde où les combats se poursuivent. Pour Courrier International, l'horreur est dans la zone humanitaire bombardée de Gaza. Le commandant de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, et le commandant de la brigade de Khan Younis, Rafa Salama, auraient été la cible d'une frappe aérienne des forces de défense israéliennes, que nous appelons, nous, forces d'occupation israéliennes, voire même forces génocidaires israéliennes, dans le sud de la bande de Gaza, annoncé le 13 juillet, The Times of Israel, relayant les informations communiquées par les forces coloniales meurtrières israéliennes. Un bombardement mené sur la zone humanitaire Al-Mawazi, située sur la côte entre Rafah et Khan Younis, où selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, au moins 90 personnes ont perdu la vie et près de 300 autres ont été blessées. Al Jazeera décrit des scènes d'horreur dans les rues et les bâtiments touchés. Mais selon la politologue Akiva Elder, citée par Al Jazeera, les autorités israéliennes sont prêtes à risquer d'importantes pertes civiles pour éliminer Deif. Or, même si l'armée israélienne a affirmé dans un communiqué publié le lendemain avoir tué un commandant militaire du Hamas, présenté comme l'un des cerveaux du massacre du 7 octobre, Mohamed Deif, lui, serait toujours en vie, selon le Hamas. Comme le rappelait Haaretz, l'attaque est survenue alors qu'Israël et le Hamas étaient toujours en négociation pour un cessez-le-feu, encore une volonté de sabotage de Netanyahou, et ce cessez-le-feu étant négocié pour la libération des derniers otages. Des pourparlers auxquels le Hamas aurait mis fin le 14 juillet, selon une dépêche de l'AFP, démentie par la suite par le Hamas. En attendant, les frappes se poursuivent. Le 14 juillet, ce sont au moins 15 personnes qui ont été tuées, selon la défense civile, dans le bombardement d'une école de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui abritait des milliers de déplacés à Nusayrat. Et le 15 juillet, des bombardements aériens et des tirs d'artillerie ont visé l'ensemble de la bande de Gaza. Le décompte macabre ne s'arrête jamais, pas un jour, pas une heure. Commente L'Orient Le Jour dans un article intitulé « À Gaza, la banalisation de l'horreur ». Le bilan de l'offensive israélienne dans l'enclave est désormais de 38 584 Palestiniens tués et 88 881 blessés selon les autorités locales, tandis que la très sérieuse revue médicale britannique The Lancet évoque au moins 186 000 morts en prenant en compte les causes indirectes liées au conflit, c'est-à-dire tous ceux qui ont des maladies chroniques, par exemple, ou tous ceux qui vont mourir par manque de soins, par déshydratation ou par malnutrition. Pourtant, à mesure que le bilan s'aggrave, les mois de l'opinion publique mondiale semblent s'épuiser, se constate le quotidien libanais. Au-delà du Moyen-Orient, les souffrances des habitants de Gaza semblent aussi ne plus avoir le même écho dans les médias internationaux plus de 10 mois après le début de l'offensive israélienne. Le crime le plus odieux est de s'habituer à tout et de se taire, écrit sur X le poète palestinien Moussa Daboutoua le 4 juillet. Dans les colonnes de L'Orient Le Jour, le politicien palestinien Khalil Sayegh, lui, dénonce le racisme empêchant des médias occidentaux de s'émouvoir de ce qui se passe à Gaza de la même façon qu'en Ukraine. À cela, dit-il, s'ajoute la tendance des médias à toujours sauter d'une crise à l'autre. Le conflit de Gaza a été couvert pendant plusieurs mois, et encore. Mais désormais, les élections en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis détournent l'attention. Voilà ce qu'écrivait Courrier International. Et nous allons tout de suite faire une pause musicale avec la chanteuse et musicienne palestinienne Neil Barghouti, qui va nous chanter, si je ne me trompe pas, ou qui va jouer un hymne à la terre. C'est parti.
Oh.
Radio Galère 88.4, nous sommes pour une heure en Palestine et on revient sur cet article d'Orient 21, il date de 2 mois à peu près. Et je vous le rappelle, Orient 21, vous pouvez le suivre en ligne, c'est une revue fort intéressante. Il y a Orient 21, il y a Afrique 21 aussi, elle est gratuite. On peut la soutenir financièrement 2 fois par an. On lance des collectes qui sont lancées. Et c'est absolument intéressant de découvrir des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. Cet article-là s'appelle « Apologie du terrorisme. Les pères fouettards des tribunaux jouent à faire peur ». Et ça explique un petit peu ce qui se passe en France, que l'on ne voit pas forcément. Et voilà ce qui est dit. Soutenu bruyamment par les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur, des centaines de procédures bâillons ont été lancées en France pour des propos ou des écrits considérés comme soutenant le terrorisme. Ces procédures sont dans la plupart des cas en suspens, mais menacent des centaines de personnes et au-delà, l'expression de la solidarité avec les Palestiniens. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion et s'y manifeste contre lui la résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Disait, devinez qui ? Eh bien c'était Charles de Gaulle qui disait cela. Il était alors président de la République et c'était en 1967. S'il tenait ses propos aujourd'hui, le général pourrait être poursuivi pour apologie du terrorisme. En effet, le nombre de procédures ouvertes pour ce délit en France explose depuis le 7 octobre 2023. Au 30 janvier 2024, Le Monde rapporte que 626 sont en cours, dont 278 à la suite de saisines du pôle national de lutte contre la haine en ligne. Des poursuites sont alors engagées à l'encontre de 80 personnes interrogées sur la mise à jour de ces données. Le ministère de la Justice n'a pas répondu. Notre enquête permet toutefois d'affirmer que des dizaines de nouvelles convocations ont été émises depuis le 30 janvier. Simple citoyen, influenceurs sportifs ou sportifs de haut niveau, étudiants, militants associatifs ou syndicaux, responsables politiques, élus locaux ou députés, les convocations pleuvent, comme celle du militant Anas Kazib, de la journaliste Siam Asbag, de la candidate aux élections européennes Rima Hassan ou de la chef des députés insoumis Mathilde Panot. Si parmi les personnes inquiétées, certaines ont qualifié les attaques du Hamas ou du djihad islamique d'actes de résistance, peu ont explicitement glorifié le massacre du 7 octobre ou se sont réjouis de la mort du civil israélien. L'apologie du terrorisme consiste à présenter ou à commenter favorablement des actes terroristes, peut-on lire sur Service Public, le site officiel de l'administration française. Une définition vague où s'engouffrent des largesses d'interprétation. C'est ainsi que la simple évocation du colonialisme brutal pratiqué par Israël sur les terres palestiniennes peut contextualiser les circonstances des attaques du 7 octobre 2023 et juger comme de l'apologie. Pour l'avocate Dominique Cochin, l'explication de la cause à effet est souvent considérée comme de l'apologie. C'est comme si tout avait pris naissance le 7 octobre 2023 et que des décennies d'occupation et de crimes israéliens qui ont précédé n'avaient pas d'existence. Le 7 octobre est présenté comme le jour zéro. Quand des personnes tentent à expliquer que cet événement n'a pas surgi comme ça, ex nihilo, on vient leur dire « puisque vous prétendez que le 7 octobre est peut-être la conséquence de quelque chose, quelque part, vous l'excusez ». Expliquer serait excuser. C'est totalement ubuesque. Et souvenons-nous que c'est un certain Manuel Valls qui a formulé pour la première fois cette ignoble expression « expliquer, c'est excuser ». Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées depuis samedi. Elles reçoivent la réponse qu'elles ont provoquée, peut-on lire sur un tract de la CGT du Nord, diffusé le 10 octobre 2023. En raison de ces écrits, Jean-Paul Delesco, secrétaire local du syndicat et responsable pénal de cette publication, est condamné pour apologie du terrorisme le 18 janvier 2024 à 1 an de prison avec sursis et à 5 000 € d'amende à verser à l'Organisation juive européenne. Il s'agit là de l'une des plus lourdes peines prononcées à ce jour. Le syndicaliste a fait appel de cette décision, donc il est toujours présumé innocent. Quant à Nadia, elle milite pour la Palestine depuis longtemps. Le 7 octobre, elle publie sur Facebook un post où elle écrit « que tout acte commis après 75 ans de colonisation, de spoliation, d'exaction est un acte de résistance. Le 10 octobre, elle publia un extrait d'un article du Point dans lequel l'hebdomadaire rapportait les propos du porte-parole des brigades des Edine al-Qassam prévenant que ce qui arrivera à la population palestinienne de Gaza arrivera forcément aux otages israéliens. On peut bien imaginer que les bombes lancées par l'aviation israélienne ne vont pas épargner, en regarder qui est sous la bombe et vont tuer de manière indiscriminée toutes les personnes qui sont dessous, qu'elles soient israéliennes, juives, qu'elles soient palestiniennes, chrétiennes ou musulmanes. Quelques semaines après, Nadia reçoit un étrange coup de fil à la maison qui lui serait envoyé par un agent des DF qui voudrait vérifier si elle est bien chez elle afin de venir relever les compteurs. Elle trouve ça très étrange, elle vérifie auprès de l'opérateur EDF et elle apprend qu'il n'y a jamais eu d'appel vers chez elle. Et quelques minutes après, eh bien, c'est un nouvel appel. Cette fois, c'est un policier qui lui demande de venir immédiatement au commissariat. Lorsqu'elle y arrive, les policiers la transportent avec un convoi de 3 véhicules pour aller perquisitionner son domicile. Ils prennent en photo ses objets privés, un tapis de prière, un Coran, des livres, et saisissent son matériel informatique. Et elle est ensuite placée en garde à vue et déférée au parquet antiterroriste où elle est enfermée en cellule pour la nuit. J'ai cru que c'était des toilettes, c'était insalubre, j'ai vomi toute la nuit, confie-t-elle. Et voilà ce qui lui est dit par un agent lors de son interrogatoire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en partageant ce que vous partagez, vous applaudissez le pogrom juif du 7 octobre, sachant qu'il y a eu des bébés décapités, des femmes violées? Vous le savez, tout cela était des fake news diffusées par certains médias israéliens et qui avaient été lancées par des organismes chargés de récupérer les cadavres et repris évidemment par les dirigeants israéliens et par la propagande pour justifier le génocide en cours. Nadia est questionnée, en outre, sur sa pratique de la religion, ses habitudes, sa vie privée, des questions qu'elle qualifie de très orientées. Mais sur les conseils de son avocate, elle décide de ne pas ébruiter l'affaire et lors de son procès, la procureure requiert seulement 300 euros d'amende et prononce ces mots. Je voudrais que madame sache que ce n'est pas son militantisme pour la Palestine qui est aujourd'hui jugé, surtout au vu de la terreur qui se déroule là-bas. Alors là, c'est la surprise, parce que si Nadia est jugée, étant donné qu'elle n'a commis aucun délit, qu'elle n'a commis un casier judiciaire vierge et qu'elle n'a pas été convoquée pour un quelconque délit autre, qu'est-ce qui est mis en cause, si ce n'est son soutien à la Palestine? Enfin, un autre cas que nous allons présenter, Mohamed Makni, qui est à Échirol, dans l'Isère, et lui, il n'a pas eu la même chance que Nadia. Âgé de 73 ans, cet élu socialiste d'Échirol avait relayé, sans le commenter, un article d'un ancien ministre tunisien qui qualifiait d'acte de résistance les attaques du 7 octobre. Malgré qu'il ait condamné les exactions du Hamas sur les civils, Mohamed Makni est exclu du Parti socialiste en Isère. Et ses délégations communales lui sont retirées. Poursuivi par le parquet de Grenoble, il est condamné le 26 mars par le tribunal correctionnel à 4 mois de prison avec sursis. Durant leur plaidoirie, les partis civils n'hésitent pas à véhiculer à nouveau les fausses nouvelles diffusées par les autorités israéliennes concernant le 7 octobre. L'avocat du Conseil représentatif des institutions juives de France, Grenoble-Isère, Maître Eric Attab déclare par exemple « Il n'y a aucun débat. Éventrer une femme, lui enlever son bébé, ce sont des actes de terrorisme. Il n'y a jamais eu de femme éventrée, il n'y a jamais eu de fœtus sorti du ventre de cette femme qui n'a pas été éventrée et c'est fort heureux, bien évidemment. » Celles et ceux qui ont comparu ont vu leur sort fixé rapidement. Toutefois, à ce jour, une grande partie des procédures pour apologie du terrorisme reste en suspens. Pour l'avocate Elsa Marcel, c'est une sorte de troisième voie. Les gens sont convoqués, puis n'ont plus aucune nouvelle. C'est une manière de maintenir une épée de Damoclès sur les personnes en ouvrant une enquête et en laissant le doute planer sur le fait de savoir si le parquet va finir par poursuivre ou par abandonner. Et vous le savez, une des personnes qui a payé très cher ces propos, c'est l'ancienne basketteuse de l'équipe de France, ambassadrice des Jeux Olympiques de Paris, Émilie Gomis. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, vers 23h, elle relaie en story sur Instagram l'image d'une carte de France avec le drapeau tricolore se couvrant progressivement du drapeau israélien. Au fil des ans, l'illustration est accompagnée d'une question Que feriez-vous dans cette situation ? Ce qui est, ce sont des photos, des images qui circulent depuis des années et des années sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est Émilie Gomis qui le fait. Et donc, le cabinet d'Emmanuel Macron fait part de son mécontentement. Elle supprime son poste, qui ne sera pas resté en ligne plus de 10 heures. Et par la suite, les associations de soutien à l'État d'Israël, par exemple le CRIF, il reprend rapidement le signalement qui avait été fait par le compte pro-israélien Sword of Salomon, l'épée de Salomon, qui se vante de faire des signalements sur X et qui a publié une capture d'écran de la story. Et ceci enclenche le rouleau compresseur qui va conduire à la démission forcée de l'athlète de haut niveau de son poste pour Paris 2024. C'est le CRIF donc qui reprend le signalement et demande publiquement et en privé à la ministre des Sports, à la sinistre des Sports, dirons-nous, Amélie Oudéa-Castéra, qu'Émilie Gomis soit démise de ses fonctions d'ambassadrice de Paris 2024. La machine est lancée, mais en coulisses, silence radio. Émilie Gomis refuse de démissionner sans être entendue. Elle a dû attendre jusqu'au 10 janvier pour avoir la possibilité d'échanger avec sa hiérarchie, notamment avec la ministre en question, lors d'une réunion en visioconférence où on lui a fermement signifié qu'elle devait démissionner pour manquement à son devoir de réserve, alors qu'elle n'est pas du tout une fonctionnaire et qu'elle n'a pas de devoir de réserve qui s'impose à elle. Mais bon. C'est ensuite le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme d'un certain Gozlan, qui est un colon qui vit dans les colonies, un ancien commissaire de police, qui porte plainte contre l'athlète pour apologie du terrorisme. Elle est convoquée au commissariat le 8 février pour être entendue par la police et à sa sortie, elle dénonce un acharnement. Rencontrée plusieurs semaines plus tard par Orient 21, elle nous assure ne rien regretter de son engagement pour la Palestine. « Prenez-moi tout ce que vous donnez, ce qui compte pour moi. » C'est qu'on ne peut pas me retirer ma dignité, mes convictions, lance-t-elle souriante. À cette heure, aucune procédure n'est enclenchée contre Émilie Gomis. Voilà, il est 18h28. Il reste encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet, mais nous allons d'abord essayer de contacter Claude Léostic, qui, comme je le disais tout à l'heure, est membre de la coordination internationale pour la flottille pour Gaza. Donc, un tout petit peu de patience. Je vais continuer sur ce qui se passe sur les universités. Par exemple, à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, pour des propos publiés début octobre, les convocations ont commencé à tomber en février et mars, en même temps que beaucoup d'autres convocations en France, confie Sarah. Évidemment, le prénom a été changé. On a vérifié la date. Les procédures ont été lancées le 30 janvier contre des centaines d'individus, de militants et d'organisations politiques, assure-t-elle. Sur le campus parisien, ils sont 6 membres du syndicat solidaire à avoir été convoqués pour un tract diffusé le 8 octobre dans lequel l'attaque de la veille était qualifiée d'acte de résistance. Et dans laquelle il était mentionné « Toute condamnation de la mort des civils israéliens sans prise en compte des milliers de Palestiniens assassinés par l'État colonial et des effets d'une occupation longue d'un demi-siècle est vaine et insupportable, effectivement ». Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures et toutes les victimes civiles sont des crimes de guerre, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou autres. Il est inadmissible de tuer des civils, mais les civils palestiniens sont aussi des victimes. Il n'y a pas que des victimes juives. Il y a des dizaines, des centaines et peut-être depuis 1948, 1 million. De Palestiniens qui ont trouvé la mort victime du colonialisme, de l'apartheid et du génocide des autorités israéliennes. Alors, je crois que Claude est en ligne. Bonjour Claude.
Bonjour.
Bonjour. Alors, est-ce que d'abord, moi je t'ai présenté comme membre de la coalition internationale pour la flottille. Est-ce
oui,
que,
c'était ça.
Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu es une militante ancienne, on va dire.
Oui, bon, donc bonsoir Régine, bonsoir tout le monde, merci de cette invitation. Oui, je fais effectivement partie du comité de pilotage international de la flottille, et ce depuis 2010, et la grande campagne française pour Gaza que nous avions menée à l'époque, et qui avait été un véritable succès, puisque nous avions pu acheter 2 bateaux, que nous avions réussi sur l'un d'eux à approcher de Gaza, mais que malheureusement nous avions été arraisonnés, kidnappés en eau internationale, hein, par l'armée israélienne. Et depuis, presque chaque année, la coalition tente de briser le blocus de Gaza, qui date de 2007. Hein. Ça fait une éternité que les Palestiniens de Gaza sont emprisonnés, coincés dans des conditions absolument innommables. Et donc, la solidarité internationale s'est exprimée très, très régulièrement par l'envoi de bateaux, parfois plusieurs, parfois un seul. Et à chaque fois, il s'agissait d'éveiller la conscience des gens dans tous les endroits où nous passons, dans tous les pays, dans toutes les villes où nous faisons escale. Ce sera le cas chez vous le 22 juillet. Et il faut absolument imposer à nos dirigeants de prendre des sanctions, de prendre des mesures, etc. Et pour ça, on a besoin de l'appui de la population partout où l'on passe. D'où les escales avec communication, avec échange, avec conférences, avec films, etc. Et la volonté qui dure et qui ne se démordra jamais, je crois, de dire que l'injustice, ça suffit, que les Palestiniens souffrent depuis bientôt 80 ans d'une injustice coloniale absolument scandaleuse et qu'elle se poursuit aujourd'hui dans une guerre génocidaire que mène Israël contre les Palestiniens de Gaza. Donc oui, nous prenons la mer et nous la reprendrons.
Alors, tu peux peut-être nous relater le périple du Handala qui va arriver à Martigues effectivement samedi 20 vers 13h. Mais nous allons ensuite appeler Thierry qui est l'organisateur sur Martigues qui gère tout ça de main de maître. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de son itinéraire depuis qu'il est arrivé, on va dire, dans les eaux françaises et puis dans les eaux européennes, puisqu'il est passé aussi au Portugal, en Espagne, avant de revenir vers la France?
Oui, alors la coalition internationale aujourd'hui comprend une dizaine, peut-être même douzaine de pays de tous les continents, et dont l'Europe du Nord, dont la Scandinavie et la Norvège. Et le Handala est un navire qui bat pavillon norvégien. C'est un ancien chalutier qui a été modifié pour devenir en fait un bateau de plaisance officiellement et qui a quitté Oslo le 1er mai dans beaucoup d'émotions et beaucoup d'appréciation de la population d'Oslo. Il a ensuite été en Allemagne, au Danemark. Il est passé en Angleterre, il a été en Irlande et puis il est venu en France comme c'était prévu. Il a d'abord fait une escale à Brest, hein, au début du monde, là, au bout du monde, c'est-à-dire chez moi en fait, puis à La Rochelle. Et après, ils se sont rendus en traversant le golfe de Gascogne dans des conditions épouvantables à Santander en Espagne, puis La Corogne, ensuite Lisbonne. Et puis, ils sont rejoints la Méditerranée. Alors, il y a eu Malaga et puis Denia. Et ils ont actuellement quitté Denia et ils se dirigent vers Martigues, où ils arriveront effectivement vers 13h le 20. Et puis après, ce sera l'Italie. Ce sera Ajaccio, pardon. Et puis l'Italie et puis vers l'Est.
Voilà. Alors, on les attend, nous, avec une grande impatience. Ce qui est prévu, Thierry nous en dira plus tout à l'heure, mais en tout cas, il y a plusieurs événements qui sont prévus à Martigues et à Marseille le dimanche. Mais j'aurais voulu aussi que tu nous parles, justement, sur les années précédentes. Il y avait eu aussi l'épisode... Est-ce que toi, tu as été sur le bateau ?
Oui, oui.
Tu as été, 2011, et oui, tu as été arrêté oui. Et détenu.
Kidnappé.
Oui. Oui,
kidnappé.
Tu peux nous raconter
au bout du fusil. Oui. Alors nous étions nous étions 16 sur le bateau français qu'on nous avions appelé le Dignité, qui avait réussi à échapper au blocus grec. Nous avions fait une erreur. Nous avions pensé que les Grecs nous laisseraient quitter le Pirée où nous nous étions retrouvés. Mais les pressions de Netanyahou sur le gouvernement grec de l'époque avaient été tellement fortes qu'il avait été impossible de partir. Mais le Dignité n'était pas au Pirée et nous avons donc réussi à partir vers Chypre d'abord et puis vers Gaza. Alors le Dignité, c'est une espèce de grosse vedette, mais un petit bateau en fait. Et ce matin-là, nous avons vu ce que nous redoutions et que nous pensions inévitable, apparaître des bateaux de guerre à l'horizon, de plus en plus gros, de plus en plus nombreux. Finalement, ils étaient une quinzaine pour s'attaquer à notre petit bateau. Ils ont envoyé un commando sur un semi-rigide, alors des ninjas, hein, et avec des fusils hyper modernes, hyper puissants. Et ils nous ont abordés et ils nous ont fait mettre à genoux. Moi, je me rappelle très bien la lumière du rouge du laser sur mon front, etc. Parce que comme moi, j'étais, j'étais responsable, on va dire, de cette affaire. C'est moi qui m'étais adressée au STODA, comme tout le temps, pratiquement, dans mes contacts avec à la fois les internationaux et l'armée d'occupation. Et donc, c'était assez impressionnant, mais nous étions bien préparés. Nous savions que nous risquions d'être kidnappés, parce que c'est un véritable kidnapping en haute mer. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'était dans les eaux internationales, c'était pas les eaux palestiniennes, ni a fortiori israéliennes. Et donc, ils nous ont transférés sur un des gros, gros bateaux de guerre. Ils nous ont mis à fond de cale et ils nous ont transférés à Ashdod, un port de la Méditerranée, un port israélien. Là, ils nous ont mis en centre de rétention. Ils nous ont interrogés très longuement, y compris je ne sais pas ce qu'ils étaient, hein, des agents des renseignements, j'imagine, de tout droit sortis de Paris. Hein. C'était très très clair que c'était des Français qui n'étaient pas là depuis très longtemps. Et puis, ils nous ont gardés pendant 48 heures environ dans deux cellules, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, dans le centre de rétention en question, et puis ils nous ont expulsés les uns après les autres, dans les avions, selon les possibilités, j'imagine, que des avions nous prennent. Ils nous ont escortés, là encore manu militari, jusqu'aux avions, jusqu'aux passerelles. Ils nous avaient confisqué nos papiers, ils nous avaient absolument tout volé à bord du bateau, d'ailleurs. Moi, je suis repartie avec le t-shirt que j'avais sur moi et rien d'autre. Je n'ai jamais revu mon sac et mes affaires. Et ils ont remis nos passeports au commandant de bord des avions jusqu'à l'arrivée, donc pour nous à Paris, où nous étions attendus d'ailleurs par beaucoup de militants et de sympathisants. Et puis c'est tout. Ils ont pris le bateau, ils l'ont gardé, ils l'ont d'ailleurs pillé avant de le mettre au fin fond du port d'Ashdod. Et il y est toujours.
Oui, ce sont des violations permanentes du droit de la mer, de la convention de Montego Bay, et sans aucune, et ce qui est le pire encore, c'est sans aucune réaction. Le Dignité battait quel pavillon ?
Pavillon français.
Voilà, pavillon français, sans aucune réaction de la France pour l'arraisonnement d'un de ses navires dans les eaux internationales, ce qui est un crime de guerre.
Mais oui, tout à fait.
Une fois de plus, la France s'est couchée devant le colonialisme. Mais bon, on sait aussi pourquoi. C'est quand même bien la France et la Grande-Bretagne qui sont à l'origine de la création de l'État d'Israël.
Responsabilité historique énorme, oui, c'est certain.
Et puis il y a
alors
une
nous avions fait une pardon.
Oui, vas-y.
J'ajoute, ils nous ont fait valoir parce que nous avons intenté un procès pour récupérer le bateau et puis pour kidnapping, etc. Que nous avons fait l'erreur de faire à Paris. Il aurait mieux valu essayer de le faire à Tel Aviv, semble-t-il, mais bon. Et ils nous ont opposé une régulation maritime du XVIIIe siècle pour justifier de l'attaque de notre bateau. Et ça a fonctionné dans leur sens, ce qui est d'une aberration totale, parce que, comme tu dis, on est devant une violation claire du droit de la mer et de toutes les conventions internationales. Mais bon, on connaît l'impunité dont jouit cet État voyou, et donc ce fut le cas encore une fois.
Mais oui, et puis il y a eu l'épisode du Mavi Marmara où neuf citoyens turcs, dont un binational turc et USA, ont été assassinés par l'armée israélienne. C'était comme...
Oui, ça c'était en 2010, juste avant que nous ne relancions la flottille.
Voilà, c'était aussi une intimidation. Et puis c'était avec le racisme de l'État israélien, on a tué des Turcs, c'est des musulmans. Et donc ça ne fera pas trop de bruit, mais ça va faire peur aux autres. Voilà, bah écoute, oui. Claude, on va rester de toute façon en contact parce que cette flottille... Alors oui, il y a une chose que je voulais te demander aussi. Les pressions, ça a été les pressions sur la Turquie, ça a été les pressions sur la Grèce. Il y a eu aussi des sabotages de bateaux. Donc, je ne sais plus si c'était en Grèce ou à Chypre ou à Malte. Oui, oui. Bon, il y a eu des sabotages. Oui, et là, aujourd'hui, il y a aussi des pressions qui sont faites pour empêcher d'autres bateaux de se rejoindre la flottille.
Tout à fait, parce que la flottille aujourd'hui, c'est le Handala en mer, mais c'est trois autres bateaux qui sont coincés à Istanbul depuis quelques semaines maintenant, parce que le pavillon que nous avions obtenu nous a été retiré sous pression d'Israël et des États-Unis. Et pour en trouver un autre, c'est très difficile. Bon, apparemment, ça se débloque et vraisemblablement, on va réussir à quitter Istanbul avec ces trois navires, dont un cargo qui transporte 5000 tonnes d'aide pour Gaza, et retrouver le Handala au large de Gaza et voguer ensemble vers Gaza. Parce que le Handala tout seul est une proie beaucoup plus fragile que si nous sommes quatre.
Eh bien, écoute, Claude, on va rester en contact de toute façon parce qu'on va le suivre. On va la suivre, cette flottille, sur Radio Galère. Et puis oui, maintenant, on va recevoir Thierry, on va appeler Thierry. On ne peut pas vous avoir tous les deux en ligne pour des raisons techniques. C'est très regrettable. Mais on va te tenir au courant, nous, de tout ce qui va se passer sur Martigues. Et puis, on te dit à très bientôt.
Oui, et merci. Et moi, je préviens évidemment les camarades de la coalition de tout ce que vous faites. Merci à vous.
Merci beaucoup. À bientôt, Claude. Et maintenant, on appelle Thierry, un peu de musique, où je continue à parler. C'est vrai que c'est un événement particulièrement important, cette flottille. Voilà, un petit peu de musique maintenant pour attendre l'arrivée de Thierry, qui nous parlera de Martigues et ce qui est prévu. عين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين اليمن يمان عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بنتي ملبوس بين اليمن يمان عين للهنا يا روح ما بدي لكم خلعة ولا لا 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 بنتي صنار بين اليمن يمان عين للهنا يا روح إلا غزال الذي جويل لكم محبوس بين اليمن يمان عين للهنا يا روح الحلي من اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة بنرجع زي زمان سيرو تيجو عنا شعبنا الجبار نسيو مفتاح الدار كبروا أطفال الحجارة معهم ريحة الحارة مشتاق ارجع عندي ترابك يا أقصانا أوصل بابك ونتلاقى نحضن أهلنا نطمن أطفالنا Voilà, nous revoilà de retour dans le studio avec cette fois en ligne Thierry Louchon qui est à Martigues. Alors d'abord, je précise que la très belle chanson que vous venez d'entendre était chantée par Amel Sdiri. Bonsoir, bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour, voilà. Alors on vient de parler avec Claude Léostic qui est membre donc du comité de coordination de la flottille. Et toi, tu es à Martigues et tu es en train d'une main de maître d'organiser l'accueil du Handala. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe, ce qui va se passer et les belles choses qui nous attendent et puis les difficultés que vous rencontrez?
Oui, alors le collectif Palestine de Martigues prend en charge l'organisation du séjour de l'escale du Handala à Martigues. On a prévu quelques animations autour de son escale. Donc la première, d'abord il va arriver. Donc samedi après-midi, en début d'après-midi, on va essayer de lui faire un bon accueil. Ensuite, dans l'après-midi, il y aura des discussions avec les marins qui sont à bord, les militants qui sont à bord du Handala. Il y a des militants de différentes nationalités et puis il y a des militants de différentes catégories socio-professionnelles, etc. Donc, en particulier, il y a des gens qui travaillent dans le secteur médical, infirmières, médecins. On va essayer de leur faire rencontrer d'autres personnes de ce secteur-là, qui sont ici à Martigues ou à Marseille, pour des discussions, pour échanger sur la situation à Gaza, les besoins, enfin à Gaza et en Palestine en général. Voilà. Ensuite, dans la soirée, il y a une soirée prévue au cinéma La Cascade, dans le centre-ville de Martigues, donc sur le thème de la mer à Gaza. Donc on va passer plusieurs petits films. Un film de Sarah Katz, entre autres, qui s'appelle Aimer la mer à Gaza, mais aussi d'autres films, notamment un Gaza Story d'Iyad Alastal, qui a trait également à la mer, à Gaza, aux pêcheurs. Voilà, tout ça, ça va durer à peu près une heure, et ensuite on pourra avoir une heure de débat. Au cinéma et ensuite un apéro convivial où on pourra continuer à discuter. Voilà, ça c'est pour le samedi.
Et le dimanche ?
Ensuite, le dimanche, on va se déplacer un peu, on va aller à la manifestation hebdomadaire du dimanche à Marseille, avec donc, je pense, une bonne partie des marins qui sont sur le bateau, et des militants du collectif de Martigues et des environs. Donc à 4 heures, la manifestation est à 4 heures dimanche, je rappelle, ça l'horaire a un peu changé. Et ensuite, à 19 heures, il y aura une animation festive sur la place de la Plaine, donc toujours avec des marins qui y participeront. Voilà. Donc on parlera encore de Gaza et de la Palestine. Le lundi est plutôt consacré aux discussions avec les marins par petits groupes, par voilà, centres d'intérêt, etc. On a invité un certain nombre de personnalités. Bon, on ne sait pas trop qui va venir, mais on a invité des députés et anciens députés, des sportifs connus, voilà. Voilà, et tout ça, il faut dire aussi en plus que il y a quelques petits problèmes techniques sur le Andala qu'on va essayer de résoudre. Donc pour le moment, on a trouvé il a un petit peu des problèmes électriques qui concernent pas la marche du bateau, mais qui concernent des installations domestiques, on va dire. Et donc, on a trouvé un électricien spécialisé, mais il est à Marseille. Donc, on va voir si on trouve quelqu'un qui peut se déplacer à Martigues. C'est bien. Donc, en même temps, je lance un appel, là. Il y a un électricien spécialiste de la marine. Ça nous intéresse. Voilà. De la même manière, il cherche des pièces détachées. Donc, s'il y a des gens, des pièces détachées pour les chaînes d'encre, s'il y a des gens qui ont des contacts dans ce domaine... ça nous intéresse également. Voilà, voilà, grosso modo, hein, ce qui va se passer là dans les 3 jours. Et le Andala, ensuite, il repart mardi matin pour la Corse, pour Ajaccio.
Alors, il y a toute une solidarité qui se met en place autour, avec des gens qui vont venir faire la sécurité autour du bateau, qui dormiront sur place, qui passeront la journée autour du bateau pour... Et même, semble-t-il, il y aura quelques plongeurs qui seront là pour vérifier de temps à autre qu'il n'y a pas des velléités de sabotage, comme cela a été le cas dans le passé, dans certaines villes, plutôt du côté de la Grèce ou de Chypre. Voilà.
Tout à fait. Voilà.
C'est un très gros boulot que vous avez à faire à Martigues et bravo au collectif Solidarité Palestine, c'est ça ? C'est SP.
C'est ça.
Ouest et d'Andebert, qui fait un gros boulot en permanence, pas uniquement là, mais là, qui se focalise sur l'accueil du Andala. Bravo à vous. Et puis, on se retrouve samedi à partir de 12h, 12h30. Je le disais tout à l'heure, c'est là, quand on prend l'autoroute pour aller à Martigues, on peut y aller en bus, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a des bus pour Martigues, mais il y a le train, en tout cas. Et on peut y aller en voiture, en covoiturage, et prendre la deuxième sortie Martégal, c'est-à-dire la première sortie, c'est par le centre. On peut y aller aussi par le centre, mais c'est peut-être un peu plus compliqué.
Oui, c'est compliqué.
Voilà. C'est quand on ne connaît pas la ville, mais on peut monter aussi à la deuxième sortie, Martigues-Lavera, qui est juste avant le Grand Pont. Et là, vous allez mettre des flèches pour indiquer où se rendre exactement.
Voilà, on se retrouvera le bateau exactement.
Eh bien, c'est parfait, voilà. Thierry, c'est parfait. On se retrouve tous samedi. Alors, à nouveau, un appel. Si vous avez autour de vous des électriciens spécialisés dans les bateaux, si vous avez des médecins, psychologues et des gens qui veulent rencontrer les gens qui sont sur le bateau, échanger avec eux, eh bien, c'est samedi après-midi à Martigues à partir de 13h ou lundi toute la journée. Et bien évidemment, vous pouvez venir à la manifestation dimanche à 16h à partir de la porte d'Aix. Mais c'est quand même plus difficile de discuter dans une manifestation. Oui. Donc vous avez tout samedi. Et puis le soir, le film réalisé par Sarah Katz, qui parlera entre autres de... Alors, j'ai hâte de voir ce film où on pourra découvrir Madeleine, la première femme pêcheur de Gaza. Et quand nous étions en route pour Gaza, malheureusement, nous n'avons pas pu y rentrer... comme des centaines d'autres personnes qui ont essayé. Nous étions le 30 octobre avec Sarah, Pierre Stamboul et le député Thomas Porte au Caire et nous avons pu parler avec Madeleine qui allait devenir maman et ça a été un moment très compliqué après le 7 octobre. Voilà, donc ce sera très intéressant de voir ce film. N'oubliez pas, mardi, samedi, à partir de 12h30, le bateau peut arriver à 13h, il peut aussi arriver un peu avant ou un peu après, pour être à Martigues. Et merci Thierry de nous avoir donné toutes ces explications.
Voilà, je rajouterai que peut-être, mais ce n'est pas sûr encore, mais peut-être dans la séance de cinéma de samedi soir, on aura peut-être des documents sur qui datent de ce mois-ci, de juillet 2024, sur la situation des pêcheurs de la bande de Gaza. Voilà.
Ok, ben c'est parfait. Alors, ça, c'est où ? C'est au cinéma La Cascade, le cinéma du centre-ville, c'est ça ?
Oui, oui. Sur le cours du 4 septembre, c'est tout à fait dans le centre-ville.
Ok, à samedi.
Ok, merci beaucoup.
Merci à toi, Thierry.
Merci. Allez.
Allez, ciao, ciao. Alors, Radio Galère 88.4, eh bien oui, merci à eux de tout ce qu'ils font, parce que ce sont vraiment d'énormes travaux. Je reviens, est-ce que je vous en ai parlé ? C'était juste là, je retrouve le papier. François Burga, je ne sais plus, j'ai la mémoire défaillante. Est-ce que j'en ai parlé, Sidi ? Non. Voilà, c'est une tribune publiée dans l'Humanité le 12 juillet. Nous avons appris avec colère et consternation le placement en garde à vue du professeur François Burga, politologue et ancien directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions liées au monde de l'islam et auteur d'ouvrages de référence sur le sujet. Convoqué le 9 juillet 2024 au commissariat d'Aix-en-Provence pour être entendu dans le cadre d'une procédure pour apologie du terrorisme, il a dès son arrivée fait l'objet d'une mesure privative de liberté avant d'être interrogé sur la situation en Palestine et l'opération militaire israélienne en cours à Gaza. Que pensez-vous des attaques du 7 octobre ? Est-ce que vous considérez le Hamas comme un groupe terroriste ? Sont parmi les questions posées à François Burga par l'officier de police. Celui-ci s'est borné à reprendre les questions du procureur de la République qui applique lui-même avec zèle la circulaire du ministre de la Justice du 10 octobre 2023. La procédure visant François Burga vient après des dizaines d'autres comme des militants, étudiants, responsables syndicaux et politiques. Il y a peu encore, l'expertise de François Burga sur les questions portant sur le terrorisme était sollicitée par des institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, le commandement militaire de l'OTAN ou encore la Cour d'assises antiterroriste de Paris. Ce passage d'experts à suspects témoigne du vent mauvais qui souffle en France contre les droits et libertés, en particulier contre les libertés de recherche et d'expression. C'est pourquoi nous souhaitons, à travers cette tribune, apporter notre plein soutien à François Burga, que nous partagions ou non ses analyses. Nous souhaitons également dénoncer les méthodes d'intimidation dont lui et d'autres intellectuels et chercheurs font l'objet. Nous souhaitons enfin rappeler notre attachement aux libertés académiques et à la liberté d'expression vitale au débat public et à la vie démocratique. Alors, c'est une tribune publiée donc dans l'Humanité. Il y a des dizaines de signataires. Je vais en donner quelques-uns. Ce sont des gens que l'on ne connaît pas forcément, mais parmi les plus connus, Gilbert Achkar, professeur à l'Université de Londres. Irène Carpentier, géographe du CERAD, Myriam Katus, politologue, directrice de l'Institut français au Proche-Orient à Beyrouth, Charlotte Coureil, maîtresse de conférence à l'Université Lyon 3, Jocelyne Daclia, directrice des études à l'EHESS, Sona Dayan-Esbrun, sociologue, professeur émérite à l'Université Paris-Cité, et plein d'autres, Mariam Guélouz, Université Paris-Cité, Myriam Allais-Davis, professeure d'histoire à l'Université de Californie Santa Cruz. Ce sont des politologues. Ben, il y a aussi Stéphanie Latabdala, directrice de recherche. Il y a Fabrice Ricciputi, historien. Alain Ruscio, historien. Montassir Saki, anthropologue. Thomas Serre, professeur en sciences politiques à l'Université de Californie Santa Cruz, Mathilde Zederman, maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 10 Nanterre. Voilà. Ce sont des dizaines et des dizaines de chercheurs, de sociologues, je disais, de directeurs d'études, qui dénoncent cette volonté de ce gouvernement français. Il y avait d'autres articles dont j'aurais voulu vous parler, mais c'était très important que nous puissions entendre Claude et Thierry sur la flottille. Alors, bon vent au Wandala, nous l'attendons samedi à Martigues avec impatience et nous le suivrons sur Radio Galère et sur les réseaux sociaux tout au long des pérégrinations qui l'emmèneront après Martigues et bien en Corse, ensuite en Italie, pour finalement rejoindre les eaux internationales et aller en direction de Gaza. Voilà, il est 18h58, nous sommes sur Radio Galère et on vous dit au revoir après cette heure passée en Palestine. Merci à Sidi pour la technique. À bientôt.